L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Alors une émission l'Afrique dans tous ses états qui est la deuxième, la seconde d'une
avec
première,
le même invité.
Avec le même invité.
Oui.
Et toujours avec les mêmes animatrices. On va peut-être
oui,
en avoir marre.
Oui, hein, non, oui. Non, je ne sais pas si les auditeurs en auront pas assez à
faut
force.
Faut qu'ils nous le disent. Hein, on peut intervertir.
Nous, on est contentes. Hein, on prend l'avion toutes les semaines, c'est bien.
Alors, Marie-Claude Siakezak et moi-même, nous recevons pour la deuxième fois Jérémy Ziri. Rebonjour Jérémy.
Rebonjour à vous.
Alors, vous nous avez dit dans cette première émission que vous portiez deux casquettes l'une sur l'autre, celle du commerce international et celle à l'effigie de l'informatique. Mais vous portez aussi, me semble-t-il, deux casquettes, celle de la modernité et celle de la tradition.
Absolument.
Et finalement, c'est vous jonglez avec ces casquettes. Hein. Vous aviez des bras comme ça autour de vous qui montraient bien balim balang, voilà. Pas comme ça vous arrange, non, je dirais pas ça, mais voilà, vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre dans l'une et l'autre, la tradition et la modernité. Ça vous convient, ça ?
Ça me convient mieux parce que pour se projeter dans l'avenir, il faut avoir les pieds ancrés quelque part.
Oui.
Et j'ai les pieds profondément ancrés dans la tradition. Et M. Césaire disait, on ne vient pas au monde les mains vides. Et j'ai les mains chargées des valeurs africaines, de ce que mes parents, mes ancêtres m'ont transmis. Mmh. Et avec ça, je vis dans ce monde moderne, quand c'est le cas, et je m'adapte. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Parce que chez nous, c'est vrai, on voit les sociétés se transformer, se développer. Et me vient à l'idée, la citation d'un de nos savants, Memel Foté, qui est mort maintenant, en 91, il disait que les sociétés se transforment, les sociétés bougent, et les sociétés créent en elles les grands hommes, en fait. Mmh. Donc oui, je suis ancré à la fois dans la société africaine, la tête dans la modernité, et ça se passe très bien. Mmh. Ce n'est pas incompatible, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce que j'essaie de faire au mieux, en tout cas. Mmh. Mon continent a accusé un retard technologique. Mais ça se rattrape. Parce qu'on est venu, on a appris, on sait faire. Mmh. Bon, donc, comme quoi, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qu'on sait moins faire, c'est la tradition, les valeurs qui se perdent, quelquefois. Et ça, il est très difficile de prendre un nom moderne pour l'emmener dans la tradition.
Mmh. Alors, quand on parle Afrique, quand on parle organisation de la famille sociale, il y a des clichés qui reviennent assez régulièrement quand on tient des propos de café. C'est la question de la polygamie. Alors, comment est-ce que voilà, vous vivez ça, vous, homme, issu d'une tradition dans laquelle peut-être vous l'avez vécu ou peut-être pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, polygamie, ce serait mal vu de vous savoir polygame ici, à Montpellier.
Non, la société moderne ne permet pas, n'autorise pas la polygamie. Mais il faut en profiter pour dire un mot sur ce qu'est la polygamie. Mm-hmm. Pour le continent africain, avant l'arrivée des premiers blancs, comme on dit, j'aime pas trop, mais bon, faut dire ça comme ça.
Oui, mais ils étaient blancs quand même.
Blanc beige après, il y a des nuances.
Ouais, parce qu'il faut pas se fier.
Rouge parfois aussi.
Différence chromatique, mais bon. Bon, c'est voilà. Donc ils sont arrivés et puis il y a eu ce drame qu'on appelle l'esclavage.
Tout
donc,
à fait.
300 millions et plus d'hommes valides ont été enlevés. Donc, ça a créé un déséquilibre profond dans la société elle-même. Et donc, les Africains se sont organisés, se sont adaptés. Mmh. Donc, si dans ta famille, on a pris quelqu'un, ton cousin, ben, tu prends sa femme, tu proposes et tu deviens le garant de cette femme-là. Parce qu'il y a des neveux, des nièces qui sont nés. Mmh. Il faut bien les protéger. Mmh. Parce que chez nous, l'époque traditionnelle, ils dotent les femmes. À partir du moment où elle est dotée, bon, c'est pas un achat, on n'achète pas la femme. On dote symboliquement, on noue une alliance entre deux familles. Et lorsque la dot est acceptée, la fille appartient désormais, elle est de la famille de son mari. Mmh. C'est ça la dot. Mmh. Et donc, il n'y a pas de divorce à cette époque-là. Mmh. Ça n'existe pas. Donc, tu intègres notre famille, tu portes le nom, enfin, ce que tu veux, tu vis là-bas. La vie, c'est là-bas désormais. Donc, dans cette famille-là, quand ton mari, au moment de l'esclavage, il est parti, tu vas pas revenir en arrière. Donc cette famille qui a pris la dot, qui a une alliance entre vous, eh bien, elle te garde. On propose de te garder. Tu n'es pas obligé. On propose de te garder. Et le cousin ou l'oncle qui est là, tu deviens sa deuxième, voire la troisième femme. Et il s'occupe des enfants. Il te donne une parcelle de champ pour faire ton vivrier, faire planter le riz et nourrir ta famille, tes enfants. Voilà comment ils se sont débrouillés avec.
Se débrouiller, j'aime beaucoup ce terme. Finalement, c'est ça. C'est toujours se débrouiller avec ce qui arrive. Voilà.
Il faut s'adapter. Donc, ils se sont adaptés. Et puis, petit à petit, effectivement, bon, il ne faut pas juger ça vu d'ici comme si on ne respectait pas les femmes. Etc. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est une organisation sociétale qui a été bouleversée et qui se réadapte à la nouvelle donne. Voilà. Donc, il faut faire avec.
Il faut faire avec. Marie-Claude.
Oui, justement, c'est très important parce que, enfin, moi, cette notion de la polygamie, bien sûr, je connais, puisque, mais ça existe encore, et puis même ça existe, on en parlait tout à l'heure, au plan légal. Hein. Par exemple, un couple, au Burkina, entre autres, ça a été légiféré, donc un couple peut, un mari, c'est le mari en général, peut opter pour la monogamie ou la polygamie, même si après, il a son deuxième, troisième bureau, mais les hommes d'ici, ils n'ont rien à dire, parce que des fois, ils en ont même plus de deux ou trois. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de rappeler quand même cet énorme déséquilibre qui a été créé quand même, parce qu'on le sait, on a beau le savoir, et on a beau en parler, on a beau commémorer maintenant cette mémoire-là, l'esclavage a créé un énorme déséquilibre dans l'Afrique, ça a été vraiment terrible. Et comment après, comme disait Jérémy, c'est important de dire comment après l'Afrique s'est réadaptée dans la vie, puisque quand même, à mon avis, le continent africain, c'est un continent qui est porteur d'une vitalité exceptionnelle, que souvent on va chercher, que même des gens ne supportent pas parce que c'est trop fort peut-être pour eux et qu'il leur faut plus de choses édulcorées. Et je trouve que c'est très important qu'on rappelle ça et qu'effectivement, ça laisse et mais ça continue. Parce qu'on voit bien dans les familles, on disait tout à l'heure aussi, même au plan plus moderne, dans les familles, si effectivement le mari meurt dans une famille, un frère voilà, peut épouser et c'est une façon d'offrir, de continuer à offrir une place dans la famille de cette femme-là qui devient un veuve avec ses deux ou trois ou quatre ou cinq enfants.
Tout à fait. Je parlais de mon cas précis. Quand mon père décède, ma mère qui est directrice d'école, on lui a proposé un cousin à mon père. Mais il s'est trouvé que ce cousin, mes parents l'avaient scolarisé. Il n'était pas en situation. Il était petit commis à la poste. Ma mère était directrice d'école primaire.
C'est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre. Et puis huit enfants. Bon, il a décliné.
Oui.
Et nous en avons parlé. Moi, l'aîné et mes frères. Il dit que voilà. Il dit, maman, c'est toi qui décide. Il dit non, mais vous êtes mes hommes. Désormais, je vous parle, je vous explique. On dit ok, et puis ça a été refusé. Donc elle ne s'est pas remariée. Mais c'est pour vous dire que la polygamie donne une protection à ces femmes-là.
Absolument, l'objectif au départ c'était ça.
Ma mère était fonctionnaire, sinon une femme, si c'était une femme au foyer, elle aurait peut-être dit oui. D'accord. Et puis il faut aussi dire que là-bas, quand les mecs sont polygames, les mecs à 5-6 femmes, c'est qu'il a des hectares, des champs à travailler.
En principe,
c'est
ça. En principe.
Parce que les enfants, c'est la main-d'œuvre. D'accord. Et puis, dans l'ère moderne, moi je me souviens en 1995, les femmes cadres de Côte d'Ivoire ont fait une tribune dans le journal officiel, Fraternité Matin, qui ont demandé à ce qu'on légalise la polygamie. Elles ont donné des chiffres, mais je pense qu'elles ont raison. Elles disent ceci, sur 10 naissances en Côte d'Ivoire à l'époque, je crois qu'il y a 7 ou 6 filles, pour peu de garçons. Et lorsque les filles sont scolarisées, le poids de la tradition fait que quand plus une fille va loin dans les études, les hommes, ils en ont peur. Voilà, et elle fait des études, quand elle finit, elle est diplômée, eh bien, au moment où tu fais ta maîtrise, eh bien, les mecs sont déjà les copines. Donc, c'est ce qui se passe, tu deviens second bureau, et puis des fois, il arrive que de ces relations naissent un enfant.
Absolument.
Et un enfant, ben, c'est difficile, il est bâtard, on fait les choses comme elles sont. Moi-même, j'ai ma tante qui l'a vécu, ça. Elle est directrice d'une société commerciale, mais elle n'avait pas le respect qui était dû à son rang d'aîné. C'est sa petite sœur, mariée à un petit institutionnel d'un petit village. Quand il y a la cérémonie au village, c'est elle qui parle. La grande sœur ne parle pas, parce qu'elle n'est pas mariée.
Ah oui, ça c'est
clair, c'est sûr. Donc c'est ça aussi le poids de la tradition qui faisait que ces dames dont je parle, ces jeunes cadres ivoiriennes qui mettent les tribunes, qu'on légalise cela et qu'on sorte de l'hypocrisie. Elles ne demandent pas à venir habiter dans le même foyer, mais c'est pour que la femme ou la famille sache que désormais, monsieur, il a une autre femme, il a eu un enfant, là-bas, voilà. Pour une espèce de cohabitation, enfin, apaisée. Donc, la polygamie, c'est... Il faut décortiquer tout ça pour que les gens comprennent.
Oui, comprends.
Alors, Jérémy Ziri, là, on a vu le côté, justement, oui, ancrage dans la tradition.
Tout à fait.
Mais Marie-Claude, vous avez rencontré Jérémy Ziri dans son ancrage moderne.
Oui.
Dites-nous.
Eh ben, son ancrage moderne, déjà, moi, je vais rappeler quand même ce qu'il nous a expliqué la semaine dernière, c'est que quand même, son ancrage moderne, c'est qu'il est allé sauver une société fameuse qui fabriquait des jeans en Pologne, quand même, et qui était en perdition. Donc, quand même, si on ne me dit pas qu'il y a des oraux un peu qui viennent de partout, et notamment avec une double casquette, voilà, ben, je veux dire, voilà, donc, effectivement, il nous expliquait sa double casquette, et qui est très complémentaire. Et je dois dire que même c'est avant-gardiste, parce que finalement, on voit bien maintenant combien on martèle qu'il faut être polyvalent, qu'il faut faire beaucoup plus de choses, alors qu'avant on s'hyper spécialisait, etc. Mm-hmm. Et Jérémy ça m'a beaucoup intéressé, nous a parlé du modèle allemand. Et personnellement, j'ai un fils qui a étudié, qui vit en Allemagne, d'ailleurs, que je connais bien ce principe du modèle allemand pour former des jeunes, justement, africains, parce que les Allemands permettent qu'on soit dans des réalités. Et je pense qu'effectivement, l'intelligence, souvent, africaine, mais l'intelligence tout court d'ailleurs, sauf qu'on l'a nié, nous on est rentré toujours dans l'intellect, etc. Mmh. Et vous disiez la semaine dernière aussi que les gens, ils avaient des diplômes, des machins, etc. Alors qu'en fait, voilà, nous rentrons dans le réel, dans la réalité, et nous peu à peu, nous donnons libre cours à nos intelligences, qui ne sont pas artificielles pour l'instant, tant mieux d'ailleurs. Et pour l'instant, à mon avis, on n'est pas arrivé encore, c'est pas arrivé comme on dit au Burkina, mais voilà. Donc Jérémy, vous pouvez nous parler un petit peu plus de tout ça, et puis peut-être... voilà, des projets, là...
De ce fameux partenariat,
Ce fameux partenariat aussi.
Afrique-France.
Oui, je vais commencer par le partenariat, et puis finirai par ce que Marie-Claude a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'on est arrivé à un moment donné de nos relations Afrique-France. D'ailleurs, j'ai bien aimé, c'est juste pour le symbole, normalement du sommet France-Afrique, pour une fois, c'est Afrique-France.
Oui, absolument.
Donc, il y a des choses à proposer de part et d'autre, et tout du côté africain. Et les autorités, la ville, en tout cas, je remercie Mme Claire Hart, si elle m'entend, merci à elle, parce qu'elle a permis, au moment de cette préparation-là, d'organiser des réunions avec les associations. Ça s'est fait sur Zoom, avec le logiciel qu'ils ont. C'était bien. Et puis, elle a été à nos côtés, elle est venue, elle a fait en sorte que chacun propose des choses. Et pour la première fois, moi, je suis à Montpellier, ça fait, je suis là depuis 1995 à Montpellier, c'est bien la première fois que les autorités s'engagent comme ça vers l'association. En tout cas, merci à l'équipe municipale qui est là. Donc oui, dans ce partenariat-là, pour aller plus loin, ils ont même proposé que... Ils ont fait venir d'ailleurs des jeunes porteurs de projets africains qui ont fait Montpellier, les études ici, qui ont fait l'Europe. Et à nouveau, j'ai été invité par Clark, Madame Clark, pour être là, assister ces jeunes. Et puis ça s'est fini par un dîner avec les autorités de la place. Il y a beaucoup de choses à proposer. Ce que je disais à M. Raffarin qui était là, j'ai dit, vous avez des premiers ministres, chefs de gouvernement. C'est maintenant que vous investissez un peu plus, enfin ils sont beaucoup plus vers ces jeunes, parce qu'il a créé une fondation à FPI. Oui, effectivement, maintenant il a le temps, parce qu'il a bien fallu qu'il se construise un carnet d'adresses, parce que quand tu es Premier ministre, bon, c'est pas évident, la politique française, elle te prend 24 sur 24, t'as pas trop le temps. Donc maintenant, il se tourne vers l'Afrique, il s'est tourné vers la Chine déjà, et il est membre de cette amitié franco-chinoise, et c'est la même chose qu'il fait en tout cas avec l'Afrique. Je lui disais, mais ces jeunes, ils sont francophones. Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils vont se tourner vers d'autres qui n'attendent que ça. Bon, la relation avec la France, elle est lointaine. Pour la Côte d'Ivoire, ça remonte à Sadi Carnot, officiellement, Sadi Carnot, président du Conseil français, qui, par décret, le 10 mars 1880, créer la Côte d'Ivoire. Ça commence là. Bon, officiellement. Mais avant lui, d'autres sont allés là-bas. Et puis, ces relations-là, quand on veut faire l'inventaire, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il faudrait se projeter autrement. Et je pense que les autorités de la ville et d'autres, j'espère, sont dans cette dynamique-là. Je pense qu'il faut tendre la main, il faut favoriser cet échange. Car ces jeunes-là qui sont venus, qui ont été sélectionnés, ils ont des beaux projets. Ils ont tous créé des entreprises. C'est intéressant. Dans ce partenariat-là, il y a des échanges techniques, financement bien entendu, qui peuvent se faire. C'est pour dire qu'ils viennent ici pour apprendre la technique et ils vont l'appliquer là-bas. Et puis, de l'autre côté, ça peut être un marché. Vous voyez? Donc, c'est ce partenariat-là qu'il faut développer. Je pense qu'il faut laisser les officiels. Pour moi, c'est trop compliqué. Les politiques, c'est trop compliqué.
Il faut la société aller dans civile vous importe.
Voilà, ils sont plus pragmatiques. D'accord? Parce que ces jeunes-là, si on les aide, d'ailleurs, c'est pour tout seul, mais si on les aide davantage, ils vont employer sur place, localement, d'autres jeunes comme eux. Et peut-être que ça va inciter les jeunes à rester sur place. Vous devez tenter l'aventure de la Méditerranée. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Il faut aider à l'entrepreneuriat. J'ai dit au début que le système éducatif dans lequel on nous a tous mis, c'était de former des hauts cadres, mais des fonctionnaires.
Oui, tout à fait.
On ne forme que des fonctionnaires. Ce qui est le contraire.
C'est un grand virage à faire, ça.
Mais c'est un grand virage à faire. Aujourd'hui, en Europe, quand on regarde l'Allemagne, on le cite, mais la Chine, regardez qu'est-ce qui se passe. En peu de temps, regardez les parts des marchés que la Chine grignote. Ils n'ont pas besoin de psychologues, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est du concret. Donc oui, il y a ces échanges-là qu'il faut faire. Ce n'est pas pour rien que la Chine a fait des sommets chino-africains, chef d'État, dépose des milliards, la route de la soie qui est en train d'être faite. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut laisser la politique à ceux qui aiment ça. Il faut aller sur le terrain d'investissement.
De l'agir.
Voilà, de l'agir, du concret. Et puis là, on est dans une période où il faut préserver l'environnement. Il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, la déforestation, il faut éviter le bois qu'on coupe. Mais là-bas, c'est pas... Vous voyez, il n'y a pas de reboisement non plus. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Il y avait une forêt, enfin, une partie de la forêt de Benjerville qui était classée. Et bien là, le groupe Accor aurait eu le permis de construire... détruire cet espace-là. Bon, les gens sont mobilisés, il y a eu des pétitions qui ont été signées, moi-même je l'ai signée, mais il faut préserver ce qu'il y a à préserver. Sinon, on va se retrouver dans la même situation qu'ici en Europe.
Alors, qui dit entrepreneuriat, dit aussi bénéfice à faire. Le groupe Accor, ce n'est pas des angelots.
Oui, non, mais je sais, ils ont déjà des hôtels sur place à Abidjan.
Oui.
Il y en a 4 ou 5 déjà. Moi, quand je vais en mission, je séjourne au nouveau hôtel ou au Pullman. Cet hôtel-là qu'ils vont faire à la hauteur de Benjerville, mais non, c'est pas possible.
Non, ça vous refusez. Il y a une limite à tout.
Voilà, c'est une forêt classée. Voilà, c'est le premier président qui a donné sa signature à un Italien, qui a planté là-bas toutes les fleurs qui existent. Et c'est le seul endroit, en tout cas à Benjerville, où les gens vont faire leur footing. Voilà, on ne vient pas construire un hôtel là.
L'entrepreneuriat, oui, pas n'importe quel prix.
Mais pas n'importe quel prix.
Tout à fait.
Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Les grands groupes, de toute façon, je pense qu'ils ont atteint leur seuil critique. D'accord? Parce qu'ils vont grossir, à un moment donné, ça va exploser. Je pense qu'il faut regarder des choses à taille humaine, de façon horizontale, pour voir ce qui est possible de faire. On peut gagner des sous en investissant dans des projets... moyens, respectueux de l'environnement. Il faut respecter les ODD, les objectifs de développement durable. Voilà, il faut aller vers ça. Il faut créer des coopératives. Il faut subventionner des structures qui vont veiller au respect de l'environnement. Vous voyez ?
Vous faites votre carrière ici, à Montpellier, en France. Est-ce que vous auriez des projets vous-même pour continuer une carrière après ? En Côte d'Ivoire.
Ben oui, j'ai des projets toujours.
Toujours des projets. Jérémy Ziri, l'homme de projet.
Ouais, là j'ai dans le projet d'accompagnement des conseils. J'ai créé une structure JLZ pour aider des investisseurs qui veulent là-bas investir. Les aider comment ça se passe ? D'abord monter les dossiers, les sélectionner, les aider dans différentes démarches. Et puis, leur dire, ça, il ne faut plus faire ça, peut-être il faudra aller vers telle chose. En termes de conseils, permettre aussi à des structures qui existent, qui veulent avoir des parts de marché, ça, c'est mon rôle aussi. Mais je veille à ce que ce soit des projets qualitatifs, des projets qui fassent en sorte que celui qui investit son argent gagne. Il gagne, il retouche son investissement, mais que là où il investit, que ça laisse une bonne trace. Chez nous, on dit souvent, un homme il marche, il y a des traces. Il faut laisser des traces, des bonnes traces d'ailleurs. Il faut laisser les bonnes traces. Sinon, quand tu viens comme un bulldozer, tu rases tout, bon,
C'est que reste utile.
Oui, voilà, il semble quand même qu'en Afrique, il commence à y avoir déjà au Gabon. Le Gabon, je crois qu'il a le chef de l'État, enfin officiellement en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il en est de la réalité, mais il a privilégié aussi la protection et plantation d'arbres. Il y a la fameuse muraille verte qui n'en finit pas ni d'agoniser, ni de... Voilà, peut-être justement en Côte d'Ivoire, parce que vous avez la chance d'avoir des belles forêts. Moi, je parle en tant que Burkinabé, là, c'est terrible. Enfin, voilà, vous êtes quand même... Il semble qu'il y a un début, un peu comme chez nous, sauf que nous aussi, on trouve ici que à force de parler vert, il ne se passe rien de vert, finalement. C'est toujours rouge comme le feu, quoi, enfin.
Ouais,
c'est...
Non, mais ici, on est... En fait, pour parler ici, il y a... Il y a eu la forêt ici à l'époque.
Oui, il y a eu la forêt.
Et le développement, des belles forêts, le développement. Il y a les constructions, il y a eu les bateaux, il y a les maisons, etc. Donc tout ça a fait que ça a été déforesté ici. C'est pourquoi ils sont allés vers l'Afrique. C'est ça. Donc du coup, là-bas, le peu qu'on a, il faut le préserver. La Côte d'Ivoire avait un espace végétal qui, malheureusement, est en train de diminuer. Diminuer. Les animaux... À la veille de l'indépendance, il y avait 4 millions d'éléphants. Aujourd'hui, il n'y a même pas 5 000.
C'est terrible.
Voilà.
Terrible.
Bon, c'est vrai qu'ils détruisaient dans les champs, mais ils préservaient quelque chose. Ils avaient un rôle à jouer. C'est pareil pour les petits rongeurs, pour plein de choses. Voilà, donc bon... On peut faire, il faut la volonté politique malheureusement.
Ah voilà, exactement.
Il faut la volonté politique, alors ça passe par la sensibilisation, je veux bien. On peut aider, s'ils sont disposés à écouter dans le bilatéral, voilà, ces relations horizontales, comme je dis, de partenariat, s'ils sont disposés à écouter, oui. Mais s'ils ne veulent pas, bon, ça se fera sans eux. Voilà.
Mais c'est vrai que là, actuellement, le fait d'avoir reçu des jeunes entrepreneurs, moi j'ai vu passer des projets, c'est extraordinaire, il y a une créativité. Donc c'est bien qu'ils se sentent déjà soutenus, parce que ça c'est très important. Et puis peut-être après aider dans des recherches de financement et de reconnaissance, etc. Et de faisabilité, quoi. Mais c'est vrai que j'étais étonnée de la créativité.
Il y a beaucoup de choses à faire. Le problème c'est que ces jeunes-là, quand ils viennent, ils cherchent des financements ici. On s'est dit, mais pourquoi les banques là-bas ne financent pas ? Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, il est à peine à 20%. À peine à 20%. Et toutes les grosses banques sont des banques françaises aujourd'hui. Et puis, il y a la monnaie, c'est vrai, qui joue son rôle.
Tout à fait, en plus.
Voilà. Le taux de, je vais vous dire, le taux d'intérêt pour acheter une voiture, il est à 15%. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est d'où le marché d'occasion.
Tout à fait.
Bon. Et là, les autorités ont pris une décision de ne plus importer des véhicules qui ont plus de 5 ans. Comment faire ? Voilà, c'est compliqué. Donc, il faudrait que ces pays-là soient économiquement autonomes pour que le taux de crédit puisse baisser. Parce qu'ici, tu es au SMIC, tu peux t'acheter une voiture. Là-bas, tu ne peux pas. Bon, le SMIC, il est à 100 euros. Bon.
100 euros, oui. Burkina, je crois que Burkina, c'est 50, 60, je crois.
Bon, voilà, c'est...
60 euros.
Donc, c'est un vaste chantier, mais commençons par ce que nous pouvons faire, des petits projets
tout à fait.
Qui respectent l'environnement, des choses qui font en sorte que les jeunes puissent rester localement sur place et puis les aider, les accompagner. Voilà.
Bon, ben, il faudra qu'on se revoie, hein, Jérémy. Parce qu'on n'a pas fini là, hein, de créer, de faire. Parce que c'est vrai que ce sont des éclairages vraiment très, très, très intéressants, justement sur le plan entrepreneuriat, enfin un plan qu'on n'avait pas trop abordé jusqu'à maintenant. Donc,
nous aussi, il y a un vaste chantier qui s'ouvre
devant nous. Oui, on va, de toute façon, on se reverra. On va se revoir au cours des entretiens avec le fameux groupe initié par la municipalité.
Alors, parlons tradition de notre émission L'Afrique dans tous ses états. C'est une musique choisie par notre invité, Jérémy Ziri.
Oui, c'est un groupe traditionnel, Zeke Digba, qui est la région de Gagnoua d'où je viens. La séquence qui va passer, il y a un proverbe qui va être dit dans cette chanson. On appelle des paroliers. Voilà, c'est transmettre la parole de père en fils. Celui qui va chanter, c'est Rizobo, c'est le fils de son père. Et moi, j'ai connu cette musique par mon père.
Ah oui.
Mon père écoutait son père.
C'est toute une chaîne de transmission.
Voilà, exactement.
D'accord. C'est les griots un peu, quoi.
Oui, un peu.
Un peu style griot, quoi.
Sauf qu'ils il convoque beaucoup de choses.
Oui, d'accord.
La cosmogonie africaine,
voilà, il dépasse, beaucoup oui, de choses. Il dépasse le...
Et donc, il faut prêter oreille dans ce qu'il va dire. Je ne sais pas si j'explique le proverbe maintenant ou après.
Oui, maintenant. Maintenant. Après,
bon, c'est fini, voilà. Après. Donc, le proverbe qu'il va dire, Bi, c'est la panthère. Mm. Badé, c'est l'hippopotame. Alors, les deux sont dans la forêt. Et puis, un jour, l'hippopotame se retrouve mort dans la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les vieux disent, mais demandez à Bi.
Oui.
Parce que chez nous, le plus grand prédateur, c'est la panthère, c'est pas le lion. Normalement, l'hippopotame, il vit dans le cours d'eau. Mm-hmm. Comment s'est fait-il se retrouver là-bas, dans la forêt? Qu'est-il à chercher? Point d'interrogation.
Un grand merci, Jérémy Ziri. Voilà. Nous nous sommes régalés avec vous pendant ces deux émissions.
On va chercher la réponse.
Merci, Marie-Claude Siakezak, de former ce duo pour cette émission « L'Afrique dans tous ses états ». Merci à la technique Stéphane et au revoir.
Et au revoir, à très bientôt.
À bientôt.
I'm gonna be here.